Bonsoir. La RDC, à travers son ministre des Affaires étrangères, désapprouve la déclaration de l'Union européenne qui a déploré le manque de consensus dans la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. Léonard Tshibala nous rappelle au chef de la délégation de l'Union européenne et aux autres représentants diplomatiques l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État conformément à la Convention de Vienne. Dans son dernier discours à la Nation devant le Congrès, le chef de l'État a également mis en garde contre l'ingérence étrangère dans le processus électoral, estimant que c'est une question de souveraineté nationale. Comment analyser la réaction de la RDC vis-à-vis de ses partenaires étrangers? C'est le thème de notre dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 avril 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Jacques Njoli, sénateur et inspecteur général du MLC. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guillaume Mandjolo, avocat et secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Maître Mandjolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Boendoua Eluga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Il est aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu, Sud-Kivu. Professeur, bonsoir. Je crois qu'on a perdu le professeur. La réalisation va essayer de le retrouver. Merci de nous suivre à Bukavu, Sud-Kivu, sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministre des Affaires étrangères chez Okitundu désapprouve la déclaration de l'Union européenne qui a déploré le manque de consensus dans la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. Le chef de la diplomatie congolaise l'a exprimé dans un communiqué dont une copie est parvenue mardi 11 avril à Radio Okapi. L'essentiel de ce communiqué avec vous, Alain Hung.
La déclaration locale du représentant de l'Union européenne en RDC est non conforme à la teneur de l'accord politique du 31 décembre et désobligeante à l'endroit des autorités congolaises, a estimé le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères regrette cette pratique d'autant plus inappropriée que la RDC n'est pas membre de l'Union européenne et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre la RDC et l'Union européenne, mais au contraire une relation de partenariat, a souligné chez Okitu. La non-observance par ses partenaires des obligations découlant de la Convention de Vienne peut amener l'État accréditaire à informer l'État accréditant que le chef de la mission diplomatique est personne non grata, a précisé chez Okitundu. La semaine dernière, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, le président de la République a expliqué que le processus électoral est l'œuvre des Congolais. À cet effet, Joseph Kabila souligne.
Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, moins encore dans son déroulement, ne sera tolérée.
Et le chef de l'État de conclure ce chapitre en indiquant, je cite, « Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. » Fin de citation.
Merci Alain Hung pour tous ces détails. Maître Guillaume Mandjolo, je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens. Vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. La RDC, on vient de le dire, à travers son ministre des Affaires étrangères, désapprouve la déclaration de l'Union européenne qui a déploré le manque de consensus dans la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. Et à cette occasion, Léonard Tshibala a rappelé au chef de la délégation de l'Union européenne et aux autres représentants diplomatiques l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État conformément à la Convention de Vienne. Comment vous analysez cette mise en garde?
Il me semble que la mise en garde, madame, est justifiée, totalement justifiée, dans la mesure où, au niveau des Nations Unies et puis au niveau en fait, du monde aujourd'hui, nous sommes régentés par les règles. Dans une série de domaines, notamment en ce qui concerne la diplomatie, la manière dont on doit interagir entre États. Et en l'espèce ici, ceux qui sont là, les diplomates qui sont sur place, quand pour certains on dépose lettre des créances et d'autres sont accrédités ou agréés, il y a une démarche à faire, il y a des règles auxquelles on doit se soumettre tous. Alors, si vous voyez ce type de déclaration, c'est lié à un concept particulier aujourd'hui au plan international qu'on appelle le centre et la périphérie. Il y a les pays membres du centre qui estiment qu'ils ont autorité sur tous les petits pays où ils considèrent en tant que tels au niveau de la périphérie. Et par conséquent, ils peuvent donner des injonctions, s'immiscer dans leurs affaires internes quand ils le veulent. C'est une démarche inacceptable, mais malheureusement, au plus vous êtes faible en termes du poids militaire, du poids financier, on vous classe au niveau de la périphérie. Et par conséquent, vous êtes soumis à ce type d'action en permanence.
Et c'est ça qui explique, selon vous, cette ingérence, comme qualifiée par le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères.
Tout à fait, madame. Comment est-ce qu'on peut justifier ça autrement? Puisque si vous regardez très bien, actuellement en RDC, est-ce que le problème majeur est celui de placer quelqu'un à un poste quelconque, ou bien les problèmes actuellement, et notamment ce qui se passe actuellement au niveau du Kasaï, chez moi à Luisa, avec plein de morts? Je vous signale au passage que rien qu'à la journée d'hier, au niveau de l'Allemagne, il y a eu un accident, en fait, une tentative de terrorisme qui a touché un joueur de football. Tous les médias en ont parlé, européens. On a même stoppé le match, tous les médias en ont parlé. Alors que dans la journée d'hier et d'avant-hier, au niveau du territoire de Luisa, à Mouzoudi, à Kalamambouji, à Lumpung, à Kavueta, il y a eu plein de morts. On parle de 30, 20, 30. J'aurais voulu entendre cette communauté internationale, si elle a les soucis de la RDC, notamment avec régler ces fêtes-là. Ça n'a pas été le cas. Mais ils sont en train de surfer.
Depuis que ces massacres ont commencé dans le Kasaï, la communauté internationale a dénoncé.
Non, entre dénoncer. Vous voyez la hauteur. Aujourd'hui, vous nous invitez pour qu'on puisse commenter sur une position tout à fait précaire qui n'est pas admissible par rapport à un sujet qui n'en est même pas un. Dans la mesure où la gestion interne des activités de la RDC ne dépend que des Congolais entre eux. S'ils ont estimé que pour avancer, aller très rapidement au but poursuivi, et en l'espèce, le but poursuivi ici, ce sont les élections. Madame, si jamais ce type de communiqué devait être appliqué à l'issue d'un processus électoral, on dit que quelqu'un a gagné les élections et par conséquent, il n'a pas été reconnu en tant que tel. On peut en parler. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'une légitimité tirée d'une élection sur laquelle nous sommes en train de pérorer. Il aurait fallu qu'on en parle à cette occasion-là. Ici, il s'agit d'un compromis politique qui a pour vocation de respecter la Constitution d'abord. Est-ce que nous avons respecté la Constitution? Il me semble que oui. Et au terme de ce processus, d'ailleurs, il aurait fallu entendre les évêques qui ont dit ceci. Qui avaient pour mission la facilitation. Ils nous ont dit ceci. Nous sommes déçus de voir qu'une série de politiques, au lieu de se focaliser sur la mission première d'aller aux élections, sont en train de lutter pour avoir des postes. Nous sommes déçus. Ils ont jeté l'éponge. En disant que 98% quasiment du processus était accompli, des négociations étaient accomplies, mais simplement il manquait deux points, que moi j'appellerais deux points de détail, parce qu'il s'agit de deux personnes simplement. Donc on peut dire aujourd'hui, légitimement, à gorge déployée, comme quoi tout est plombé en RDC, rien ne marche. La convention passée le 31 décembre 2016 n'est pas appliquée parce que deux personnes n'auraient pas eu de poste. C'est inacceptable.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Mandjolo, que cette prise de position peut s'expliquer par le fait que on considère un peu la RDC comme un État faible. C'est pourquoi ces pays occidentaux se permettent de donner des injonctions.
Mais madame, c'est toute la réalité qui est là. Vous pensez sincèrement. Vous savez, quand on est dans des situations de cette nature ici, qui peuvent être très sensibles, il y a des procédures au plan diplomatique, comment on gère ça. Lorsqu'on doit parler avec Israël sur la situation des Gaza notamment, ses relations avec les Fatah ou avec les Hezbollah, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a des circuits de discussion par rapport à ça, pour ne pas amuser, pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Vous ne pouvez pas, sur un point aussi simple de positionnement de deux personnes,
vous ne pouvez pas commencer à faire des communiqués tonitruants. C'est pas bien. Il y a des précautions à prendre. Même si quelque part vous sentez qu'effectivement quelque chose qui ne va pas, prenez les précautions parce qu'il y a des canaux spécifiques pour ce type de démarche. Et la Convention de Vienne fixe les mécanismes. Entre autres, il y a un autre élément, je pense que tu veux continuer là-dessus. La Belgique, pour ne parler que d'elle, avec la RDC, avait convenu entre 2009 et 2010 qu'on ne pouvait plus revenir à ce type de comportement où on exposait nos difficultés ou nos problèmes. Il y avait des canaux par rapport à ça. On avait signé même une convention spécifique à l'époque, c'est M. Mouzid qui était encore Premier ministre. Donc, mais tout ça n'est pas respecté aujourd'hui. Ça pose un problème à la fois du respect des textes, des grands textes que sont notamment la Convention de Vienne et des textes en bilatéral entre deux États. C'est un souci par rapport à ça.
Merci, Maître Mandjolo, professeur Jacques Mandjolo. Vous êtes sénateur et inspecteur général du MLC, parti politique de l'opposition. Professeur, quelle est votre analyse par rapport à cette réaction de la RDC vis-à-vis de ses partenaires étrangers? La RDC qui fustige ce comportement de ses partenaires.
Merci beaucoup, madame. Je suis d'abord heureux de partager ces plateaux avec le maître Mandjolo. Et je voudrais aussi saluer le professeur recteur qui va aussi, si la technique nous permet, de bien discuter. Je voudrais d'abord noter à liminaire que aujourd'hui, madame, la vie des États ne se passe plus en autarcie. Il y a, comme on dirait, une internationalisation de problèmes internes. Et en même temps, une internisation de problèmes internationaux. Aujourd'hui, les élections des États-Unis sont suivies par tous. Les débats électoraux qui se passent en France, ou les questions de sécurité de la République démocratique du Congo, ne sont plus des questions pour lesquelles la communauté internationale ne peut pas suivre. Donc, ça c'est de un. De deux, je suis un peu désorienté par l'attitude de la diplomatie congolaise. Lorsque le nouveau ministre d'État a pris ses fonctions, il a pris son bateau des pèlerins. Et tout le monde était heureux de voir le ministre reçu à Paris, à Bruxelles, à New York, en train de se poser sur la politique interne. Et j'étais aussi heureux de voir le ministre entamer une diplomatie tonitruante, pour emprunter le mot de Maître Mandjolo, en invitant à dîner l'ambassadeur et les ambassadeurs. Pas plus tard qu'il y a trois jours, il était avec eux. Donc aujourd'hui, sur cette question particulière des accords, on ne peut pas se plaindre, parce que c'est ça aujourd'hui la souveraineté internationale. Ce n'est plus le résultat de la souveraineté monarchique, c'est aujourd'hui un espace où des États se retrouvent et chacun essaie d'apporter des éléments pour qu'il y ait la paix et la sécurité.
C'est quand même une question qui concerne les Congolais, une question congolaise.
Tout à fait, madame. Mais aujourd'hui, comme a dit, je ne voulais pas dire que nous sommes faibles, nous le sommes déjà, mais il faut revenir aux fondamentaux, comme a dit Maître Mandjolo. Premièrement, la charte des Nations Unies dit que autant il ne doit pas y avoir ingérence dans les affaires intérieures de l'État, à l'article 2, à l'article 1er, on dit que les États doivent coopérer en matière de droits de l'homme, en matière de paix et de sécurité. La question de la République démocratique du Congo, c'est une question qui, madame, touche la sécurité internationale, les désordres politiques congolais, l'inefficacité de notre gouvernement à assurer la protection de droits fondamentaux, madame. C'est une question qui, au plan international, est réglée et peut justifier ce qu'on appelle le jus cogens, c'est-à-dire, y compris la Convention de Vienne sur les traités, l'article 53 dit, en matière de droits de l'homme, en matière de droits civils et politiques, et nous sommes dans une question éminemment politique, c'est-à-dire le droit des Congolais de désigner leurs dirigeants. Deuxièmement, troisièmement, je voudrais dire, en ce qui concerne particulièrement l'Union européenne. Vous savez qu'avec l'Union européenne, et Maître Mandjolo le sait, nous sommes liés par un accord qui s'appelle l'accord de Cotonou, ACPUE. Et dans cet accord, il y a des piliers. Le premier pilier, c'est le pilier politique. C'est l'article 9 et l'article 96. C'est-à-dire, notre coopération est fondée sur un certain nombre de valeurs, notamment 1. La démocratie, 2. L'état des droits, 3. Les droits de l'homme. Et sur cette question, il n'est pas, on ne peut pas parler d'affaires intérieures, parce que, madame, ces questions-là ont souverainement fait l'accord des États pour que nous puissions coopérer, et l'Union européenne se trouve donc en droit. Et c'est pas seulement l'Union européenne, c'est la Belgique qui nous en parle, c'est la France, c'est l'Union européenne. Et pour continuer dans ce sens, il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 2348, qui a été adoptée à l'unanimité, y compris la République démocratique du Congo qui était là. Et la question de l'accord qui aujourd'hui vient au secours de notre constitution, qui a été vidée de son substance par la non-organisation des élections, qui met les institutions en cessation de mandat, ce qui pose un problème réel de légitimité, et dont les conséquences sont justement situation d'insécurité généralisée, notamment la situation qu'on évoque au Kasaï, où la République est incapable de protéger ses citoyens. Et à partir de ce moment-là, nous nous trouvons dans un cas de non-assistance de peuples en danger. Voilà pourquoi, madame, je crois que, fort de tout cela, il est important que nous reprenions le bon sens, c'est-à-dire, il y a un accord qui a été signé de bonne foi, qui est clair sur la partie qui doit désigner le futur Premier ministre. On dit telle partie doit le désigner. Cet accord dit qui doit de jure diriger le Conseil national ou de suivi de l'accord.
Merci,
mais la bonne foi, qui est un élément fondamental en droit international, eh bien, devrait nous aider à avancer et
merci,
non à trouver de mécanismes de dérive et de dérivation du droit malin.
Merci, professeur Jacques Njoli. Professeur Bouendoua, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Vous êtes aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu. Sur qui vous, au professeur, quelle est votre lecture à vous ou par rapport à cette mise en garde?
Bon, je vais d'abord commencer par saluer mon condisciple d'université, parce que le professeur Jacques Njoli se trouve être quelqu'un avec qui, avec Sam Bocolombe, on était en faculté en tout début de 1979. Je le salue très chaleureusement. Je salue aussi Maître Guillaume Amandolo. Je suis vraiment bien content de pouvoir aborder ce sujet ce soir. Sur la question de dire que notre pays ne veut pas d'ingérence dans ses affaires. Mais je commencerai d'abord par une sorte de proverbe ou de pirouette swahili qui dit que Amlipa et Mwimba di ndi au Chagua Wimbo, Nalinga na Koloba, Moto a Futakani Molanganzimbo, Nde Aponelaka, Nde Aponakandembo Babembelae. Ça veut dire tout simplement que je ne pense pas du tout un seul instant que notre pays, la République démocratique du Congo, qui est vraiment un pays littéralement, je dirais, sous perfusion économique, un pays que je dirais sous tutelle ou sous curatelle politico-militaire, un pays que je dirais aussi sous domination culturelle et sous embargo des ventes d'armes, un pays assisté et vraiment à genoux, je ne pense pas du tout qu'il puisse se permettre de dire au monde entier qu'il n'a pas besoin qu'on puisse intervenir chez lui. Nous sommes dans un monde d'une globalisation totale et à la limite, refuser l'aide, ce serait vraiment se moquer de soi-même. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout simplement, que ce soit la Convention de Vienne, que ce soit ce que le professeur Njoli vient de dire à propos de tout un tas de textes, je connais très bien sa verve et sa compétence absolue, je dirais tout simplement qu'on devrait quand même se dire que notre pays est en train de patauger dans des eaux un peu Je ne sais pas. Allô?
Oui, professeur, vous êtes en ligne.
Oui, d'accord. Alors, je dirais que, sincèrement, nous avons réussi l'exploit de faire de ce géant géographique un nain économique, vraiment un néant presque politique, de telle enseigne que je ne comprends pas que le ministre des Affaires étrangères puisse aller se pavaner partout et dire que nous, on n'a besoin de rien, alors que vraiment, on a besoin de tout. Et je pense que c'est à ce point-là qu'on doit discuter et se dire que, bon, pour organiser les élections, pour asseoir nos institutions, pour respecter les droits humains, les libertés fondamentales et les devoirs du citoyen de l'État, qu'on se mette un tout petit peu, un peu en recul et qu'on se dise qu'on peut construire quelque chose qui nous permette de voiler à tout le moins la face.
Alors, professeur, la déclaration de l'Union européenne est considérée un peu comme désobligeante à l'endroit des autorités congolaises, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères.
Vraiment, j'aime bien le ministre des Affaires étrangères, j'aime bien le président de la République, j'adore la République démocratique du Congo, mais je me dis qu'un pays incapable de se financer ses propres élections, un pays à la limite d'un budget qui est l'équivalent de celui du Rwanda en étant un géant, un pays, bon, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on doit se pavaner, à se targuer d'être une très grande puissance, qu'on a la souveraineté. C'est vrai, on peut l'avoir, la souveraineté, elle est verbale, elle est par elle. Comme disait Julius Nyerere, l'indépendance du drapeau, nous l'avons eu au Congo, mais réellement, qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Et si cette indépendance qui nous accorde la souveraineté, qu'en faisons-nous? Mais à tout le moins, nous sommes à une étape de notre histoire où nous devons nous rattraper, essayer d'envisager l'avenir sans avoir les yeux tournés vers le passé. Et je pense que c'est à ce niveau-là seulement qu'on puisse dire que, bon ben, on va, comment dirais-je, faire un peu de rodomontade, mais faire la rodomontade, il faut en avoir les moyens. Et les moyens, nous ne les avons pas.
Par rapport au processus électoral, on a suivi le chef de l'État dans son dernier discours à la Nation devant le Congrès, qui a mis en garde contre l'ingérence étrangère dans le processus électoral, professeur, estimant que c'est une question de souveraineté nationale et que la RDC allait organiser ses élections seule sur forme propre. Vous avez dit tout à l'heure que la RDC n'a pas de moyens pour organiser les élections, alors que le chef de l'État, lui, estime qu'on est capable, la RDC est capable d'organiser ses élections sur fonds propres.
Oh, je pense que le président de la République, qui comprend aussi bien et mieux Kiswahili que moi, je pense qu'il sait très bien que c'est ceux qui nous payent, ceux qui mettent la MONUSCO ici, qui l'entretiennent, c'est-à-dire nous sommes un pays sous tutelle, sous curatelle, pratiquement un protectorat. Et je ne vois pas du tout, et on le vit, on est presque heureux, à la limite. Mais bon, on n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas organisé les élections l'année dernière, parce qu'on a n'avait pas d'argent. Maintenant on dit qu'on en a, ok. Mais si on n'en a pas, ce n'est pas une honte à aller demander qu'on puisse organiser les élections pourvu qu'on se sorte de cette situation un peu honteuse, vraiment d'un pays qui commande, qui demande, qui est vraiment qui se dirige. C'est terrible. Bon, ben, moi je reviens de Tanzanie, je peux vous assurer que, quand on voit comment les autres, le Kenya, la Tanzanie, prépare les élections, comment ces pays-là les mettent en place, je me demande comment un grand pays comme le nôtre ne peut pas arriver tout simplement à activer toutes ses forces pour arriver à cela.
Merci. Professeur, on vous retrouve tout à l'heure. Maître Guillaume Mandjoulou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi dans le Lualaba.
Adonis Kalingwa, à partir de Kolwezi. La RDC devient de plus en plus agressive aux déclarations de ses partenaires étrangers. C'est vraiment absurde que la RDC interdise à ses partenaires de s'intéresser aux affaires internes du pays. Quel serait alors le rôle des diplomates étrangers sur le sol congolais? L'Union européenne est une organisation de grande renommée et appréciée dans le monde. Ses déclarations sont très fiables parce qu'elles passent par un traitement et une analyse soutenue d'experts. Mettre en cause ces déclarations est une preuve d'autoculpabilité de la part du pouvoir en place.
Maître Mandjolo.
Bon, merci pour l'intervenant, mais en même temps, je souhaiterais pouvoir rappeler quelques éléments qui ont été dits par le professeur Anjoli, d'une part, et puis le professeur Poindoa, d'autre part. Je pense qu'on ne peut pas, au stade actuel, sombrer dans ce que la Boétie appelait les discours sur la servitude volontaire. Nous acceptons l'indignité et la non-humanité au motif que nous n'avons pas de moyens, nous sommes pauvres et par conséquent, on doit accepter chaque insulte. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que j'aimerais aussi rappeler un certain nombre d'éléments. Je parle à un grand professeur d'université, au grand professeur d'université, notamment M. Njoli, à qui je rends hommage parce que je suis ses interventions et son approche à la fois du droit et de la gestion des États. Et je trouve que là, il a évacué un certain nombre d'aspects tout à fait importants dans la gestion du monde. On a institué les droits civils et politiques en 66. Nous y avons accédé en 66. Mais ces droits civils et politiques existaient depuis longtemps. Depuis qu'on avait finalisé, on est sorti des scènes pour passer aux Nations Unies. Il s'avère simplement que pendant toute cette période-là, on n'a pas reconnu à la plupart des pays africains l'autodétermination, qui se trouve être un élément majeur de la gestion du monde. Il me semble qu'un certain nombre d'États africains, notamment l'Angola à côté de nous ici, les Zimbabwe, n'ont pas eu leur indépendance à cette époque-là, dès qu'on a mis en place ces règles. Il me semble que l'apartheid a continué au niveau de l'Afrique du Sud jusqu'en 1990. Alors, je veux bien, cette ingérence, qui n'est possible que dans un sens, pas dans l'autre sens, me pose un problème. Elle me pose un problème d'humanité. Est-ce que moi, être humain congolais, suis-je en mesure aujourd'hui, en tant que pays pauvre, comme vous l'affirmez, avec un certain talent, me permettre de me gérer dans la discussion entre les Flamands et les Wallons en Belgique au motif que les concerts des nations appellent à ce qu'on puisse intervenir dans les affaires internes, parce que c'est globalisé. Il me semble que non. Est-il possible aujourd'hui?
C'est interdit à la RTC ou à l'État africain de donner son point de vue sur une situation qui se passe en Europe.
Est-ce que vous avez déjà entendu la RDC faire ça? Vous avez déjà entendu un pays arabe ou les pays de Maghreb ou les pays asiatiques intervenir dans les affaires européennes? Non. Madame, la situation que je vous explique aujourd'hui, c'est qu'il y a le centre et la périphérie. Le centre a mis en place les règles qu'elle ne respecte elle-même pas. Je viens de vous déterminer ici que l'autodétermination des peuples qui avait été instituée par les Nations Unies n'avait pas été respectée jusqu'encore dernièrement avec l'apartheid au niveau de l'Afrique du Sud. Je suis désolé, on ne peut pas applaudir les gens qui ont fait ce type de politique pendant très longtemps, y compris sous nos yeux. Ce n'est pas acceptable. Madame, on a eu dernièrement, je crois il y a quelques années, la loi Dodd-Frank. Elle dit quoi cette loi? Parce que j'entends ici dire que la RDC est très pauvre, n'a pas de moyens, soutient tout ça. Qu'est-ce qu'on perçoit de l'extérieur? J'ai fait 10 ans de coopération. Et je sais ce qu'on perçoit et comment on le perçoit. Madame, la loi Dodd-Frank explique, voulant faire la traçabilité des matières premières qui sortent de la RDC par des moyens détournés, qui passent par la Belgique. On a eu même un film belge organisé montrant ce qu'on appelle les portables du sang. Ça vient de la RDC. Ça sort, ça passe par la Belgique, ça va en Suède, ça va au niveau du Japon notamment. Ça vient de la RDC. Le peuple congolais qui est à l'étranger, la diaspora, participe à hauteur de entre 5 et 7 milliards de dollars par an qui est versé en RDC. Il est vrai que nous sommes désorganisés. Il y a la corruption, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de failles dans notre système. Mais nous ne sommes pas un pays pauvre. On n'a jamais été un pays pauvre. On a un problème.
Mais c'est l'image qu'on affiche, qu'on présente.
Non, la pauvreté, c'est une chose. Mais l'absence de structuration ou d'orientation ou de bonne gestion en est une autre. La rectitude dans la gestion en est une autre. On ne doit pas faire la confusion. Je ne suis pas né pauvre d'un pays pauvre. Je suis né d'un pays riche. On a un problème avec la structuration de ce que nous sommes. On doit faire la part des choses.
Qu'aujourd'hui, la RDC est en mesure d'organiser les élections sous fonds propres?
Madame, j'entends parler des élections ici. Il me semble que depuis que le gouvernement Dibanga a été mis en place, le professeur Joly est aussi sénateur. Ils sont en train de verser sur l'autorité budgétaire.
ils sont en train de verser quasiment chaque mois de l'argent pour que M. Nanga organise l'enrôlement. Qu'avons-nous reçu jusqu'aujourd'hui de la part de la communauté internationale en termes de processus qui est en cours aujourd'hui? 320 millions viennent de nos propres ressources. Et on a déjà accompli presque plus de la moitié du corps électoral.
Et la logistique, c'est la communauté internationale.
Attends, on va y venir. Je vais vous faire la démonstration ici de toutes les matières premières qui sortent de manière indue de la RDC, qui partent vers l'étranger. Et ces gens n'en payent aucune taxe par rapport à ça. Et d'ailleurs, au passage, on appelle ça les matières premières du sang. Donc il y a les sangs congolais qui coulent. Lorsqu'on montre les enfants congolais en train de souffrir sur le terrain, en train de creuser pour ces gens-là, et qui les a bénéficiés, et que vous rentrez dans un métro parisien ou belge, que tout le monde a un portable à main, et ce portable vient du diamant ou du coltan de la RDC, ça ne pose pas un problème? Non, ça pose un problème à personne.
Mais alors il y a un problème à notre niveau.
Oui, mais le problème, oui, à notre niveau, il y a un problème. À leur niveau, il y a une responsabilité extraordinaire. Mais je reviens encore...
Rapidement, maître Mandjolo,
oui, c'est important,
minute.
C'est important. Professeur Ndjoli, je parle à un grand professeur. On doit sortir de temps en temps de la politique et revenir au droit. La subsidiarité, professeur Ndjoli, dans les circuits des décisions au niveau de la planète, la subsidiarité. Nous avons un problème qui doit être traité au niveau de la RDC, qui monte au niveau des CER auxquels on appartient. Une grosse partie de la sécurité congolaise est gérée par la SADC. Il me semble que dernièrement, on a eu une décision de la SADC au sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement en Bambané. À la suite du périple de M. Félix Tshilombo, qui a rencontré M. Zuma. Et ce texte dit nommément ceci. L'opposition congolaise a intérêt à déposer trois noms des trois candidats. Est-ce
merci.
Pourquoi vous n'en faites pas cas?
Vous êtes à 12 minutes,
je n'entends pas
Mantolo.
L'intelligence congolaise en faire cas. Parce qu'il s'agit d'un groupement africain. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. On n'en fait pas cas. Donc, ça me pose un problème de conscience.
Alors, il va vous répondre,
et, au niveau
le professeur
congolais,
va vous répondre, maître Guillaume Mandjolo. Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de d'Isiro.
Simon Pouka, depuis la ville d'Isiro, je suis parfaitement d'accord avec le discours du chef de l'État et la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui soutient qu'il n'y aura pas des ingérences dans les affaires internes de la RDC. Car la RDC n'est pas un État sous-titrage des États-Unis, de la France ou de la Belgique. Comme Trump le disait, l'Amérique est pour les Américains, moi j'ai dit le Congo pour les Congolais. Les affaires internes de la RDC seront traitées entre Congolais. Je ne vois aucun intérêt des USA, de Belgique et de la France de s'ingérer aux affaires privées de la RDC.
Professeur, les problèmes congolais doivent être réglés par les Congolais eux-mêmes.
Mais c'est de la belle littérature qui s'y situe dans la suite de la poésie de Maître Mandjolo. Vous savez, c'est bien de parler du colonialisme, de l'exploitation néocoloniale, mais heureusement, Maître Mandjolo dit lui-même qu'il y a absence de structuration. C'est donc la déliquescence de notre propre gouvernance. Et Maître Mandjolo est communicateur de cette gouvernance qui dure depuis 16 ans, qui est incapable d'avoir un budget. Madame, on parle de budget des élections, mais nous sommes au mois d'avril, il n'y a pas de budget. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez le report de la Banque centrale, on est à moins de 3 semaines de réserve. Donc, nous sommes dans une situation de banqueroute, et cette banqueroute ne peut que nous donner une souveraineté en béquille. Comment expliquer qu'un pays comme le nôtre, plus de 10 ans, nous avons une armée étrangère, la MONUSCO, qui nous aide à soigner nos militaires, à faire la logistique, même la logistique électorale. Je crois que nous ne sommes pas heureux d'être pauvres, mais nous sommes appauvris par une gouvernance de basse qualité. Et cette gouvernance a montré ses limites. Si on nous dit aujourd'hui qu'on n'est sans aucune volonté d'organiser les élections, c'est parce que depuis 2011 jusqu'à ces jours, le fonds qui ont été affectés au budget électoral ont été détournés. avec des projets qui n'étaient pas budgétisés. Donc voilà cette gouvernance des pacotilles qui nous amène à cette situation. C'est bien de pleurer qu'on nous pille, mais qui organise le pillage? Qui organise la vente de matières premières qui sortent comme dans un écumoir, dans un pays où les frontières ne sont pas protégées? Donc, il faudra que nous assumions nos responsabilités avant de condamner les autres. Aujourd'hui, la situation de la RDC, c'est une situation qui interpelle la paix et la sécurité internationale. Et pour terminer sur ce point-là, je crois que nous ne sommes pas dans la communauté internationale. Nous ne réclamons pas l'application de ces valeurs, de ces principes par imposition. C'est notre propre constitution, madame. Dans le préambule, il est dit, nous réaffirmons notre adhésion, notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte. Ça appelle, maître le sait, des mécanismes de suivi et de garantie. Lorsqu'on parle de l'indépendance, la souveraineté, la souveraineté n'appartient pas à un monarque, à un roi ou à un président, quoi que ce soit. La souveraineté appartient au peuple congolais. Et cette souveraineté est démocratique. Et lorsque vous privez ce peuple de sa démocratie, c'est un acte de haute trahison pratiquement. Et on peut aller plus loin.
Alors, maître Bantoura, il y a un problème.
Oui.
Tout à l'heure, il a dit pourquoi la RDC ou un autre pays africain ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des pays européens.
Mais je crois que maître Manzolo est membre d'un parti dont le président est un routier de la politique internationale. La politique internationale, madame, a d'une part le droit et d'autre part les relations internationales qui sont dominées par la puissance. C'est la quantification de sa puissance. Si vous ne valez que 3 milliards de dollars que vous récoltez péniblement pour 80 millions d'habitants, qu'est-ce que vous pouvez dire? Aujourd'hui, madame, nous ne sommes même pas capables de rivaliser avec un pays comme le Rwanda sur la place internationale en termes de crédibilité. Combien de Congolais occupent de positions dans la fonction publique internationale? Parce que l'ordre public ou l'ordre international est le reflet de l'ordre interne. C'est un pays, comme a dit le professeur Bouindoua, sous tutelle ou sous curatelle. À partir de ce moment-là, vous allez vous ingérer en quoi? Vous ne faites qu'envoyer de la diaspora qui est totalement abandonnée à elle-même et qui fait des efforts pour nous renvoyer le minimum. Donc, le Congo est le produit de ses dirigeants. Ces dirigeants dont maître Manzolo est le communicateur. Et c'est ça, je voudrais qu'il puisse prendre conscience qu'au-delà de la belle littérature, qu'il est en train de servir un pouvoir qui pêche par absence de structuration. Je
merci,
prends ses
professeur
propres mots.
Ntoli, professeur Bouendo, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
François Moulila de Lubumbashi. Quand un père de la famille commence à rappeler à ses fils que c'est celui le père, eh bien, le père n'est plus sûr de sa paternité. C'est vraisemblablement le fait qui se passe à nos nationalistes et improvisistes. Quand il y a un discours au Congrès, forum national, dialogue, etc., elle s'invite ou elle est invitée. Ensuite, la RDC doit se rappeler qu'elle fait partie de cette fameuse communauté internationale et ayant ratifié plusieurs traités et accords, et donc c'est quasiment impossible qu'elle échappe au retour à l'ordre à chaque instant elle dérapera. Commençons à être sérieux et les autres nous traiteront ainsi.
Prof Bouindoua.
Oh, je suis bien content de mon ami de Lubumbashi, ainsi comme on dit là-bas. Je suis bien content de ce qu'il a dit parce que tout simplement je ne peux pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas le contredire, mais je renchéris sur ce qu'a dit mon ami le professeur Ndjoli parce que il voulait dire qu'on est ce qu'on vaut. En fait, l'être égale la valeur, pour en dire un terme qui peut s'expliquer autrement. Mais la vraie question de notre pays, c'est ce que chez les Bashi, un ami me l'a suggéré. Il me dit que Owenyonjo Aragewa et Mgongo. Ça veut dire que quelqu'un en fait qui a un problème, un bossu n'aime pas qu'on lui passe derrière. Et c'est ça la vérité pour le Congo. Chaque fois qu'on veut dire quelque chose qui concerne le Congo, On a l'impression qu'on est en train de s'excuser, alors que nous, si nous mettons les réalités sociopolitiques de notre pays en face, que nous aident, nous les analysions, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'experts, de beaucoup de théories, nous voyons tout simplement que nous sommes un pays en décadence absolue et que si nous ne faisons pas attention, nous allons vraiment tomber dans un précipice. Et je pense que réellement, ce qui nous concerne, nous devrions faire attention pour que, à tout le moins, nous nous rattrapions, que nous puissions aller vers les élections, que nous les organisions, qu'à la face du monde nous paraissions un peu sérieux. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Il n'y a personne, on n'a aucun de nos voisins qui nous craignent. Cela me fait, vraiment ça me fait mal, parce que bon, j'ai un peu la chance de voyager en Tanzanie, au Kenya, au Burundi, au Rwanda et tout, dans tous les pays, même au Congo-Brazzaville. Et vraiment ce que mon ami Kitapur a dit, qu'on est un Kikangabani, c'est-à-dire une sorte de vipère, en fait, qui ne serait que des paysans, en fait, mais qui ne mord jamais. Et j'aimerais bien quand même qu'on puisse avoir un peu de muscle, qu'on puisse se tonifier, qu'on puisse se dire, nous sommes capables nous-mêmes d'organiser les élections, nous sommes capables de payer pour cela, nous sommes capables de faire une alternance civilisée, et puis, bon, ça marche, mais bon, pour le moment, je ne vois pas l'ombre du début d'une esquisse de faisabilité.
Alors, professeur, les partenaires internationaux doivent-ils aujourd'hui, après cette mise en garde du gouvernement congolais, d'arrêter de donner leurs avis sur la situation de la RDC? Ça sera aussi votre conclusion.
Les experts internationaux savent très bien que nous sommes un pays sous perfusion qui nous assiste et qui nous aide, qui nous pousse à nous conduire vers un chemin qui nous permettent de ne pas envisager l'avenir avec les yeux tournés vers le passé, au fait qui nous aide vraiment à être le Congo, le grand Congo, le fier Congo.
Merci professeur Bouendwa. Maître Guillaume Mandolo, je vous pose aussi cette question. La même question, est-ce que les experts internationaux, plutôt les partenaires internationaux, doivent arrêter aujourd'hui de donner leurs avis sur ce qui se passe en RDC, puisqu'il y a des accords qu'on a signés quand même avec l'Union européenne, avec certains pays européens. Est-ce qu'ils doivent arrêter de donner leurs avis?
Madame, on demande à personne d'arrêter de donner les avis. C'est pas ça le problème. Il y a les canaux, les procédures pour donner les avis lorsqu'on doit donner un conseil à un ami ou à un partenaire. Mais ce qui n'est pas...
Vous pensez qu'ils n'ont pas utilisé
mais
ces
non,
canaux?
Non, parce qu'on avait prévu... Je vous ai cité l'exemple de la Belgique, qui a fait aussi un communiqué alors qu'on a des canaux pour pouvoir faire passer le message. Madame, ce qui est plus grave encore aujourd'hui, c'est... Vous savez, on a évacué les vrais problèmes ici. Nous avons parlé du droit international, de la gestion, de l'ingérence et tout ça. Mais on a évacué les problèmes. Mais c'est quoi les problèmes exactement? Nous sommes dans une forfaiture. Pourquoi? Parce qu'il avait été prévu simplement qu'on puisse aller aux élections. Est-ce que quelqu'un a refusé qu'on aille aux élections? Il me semble que non. Pour l'instant, on est en train de faire les démarches pour aller aux élections. Et la gestion de ce pays, les pauvres Njoli le sait très bien, c'est l'affaire de tous les Congolais. Quand il parle de 16 ans, nous avons les anciens du MLC qui sont en responsabilité, qui sont partis, qui sont encore chez eux, qui sont revenus. Donc, la participation de tous les Congolais. Moi, je pense que l'art en politique, c'est notamment de reconnaître des fautes qu'on a commises. Et Joseph Kabila l'a dit personnellement.
Merci, maître.
Et il me semble que c'est utile de
pouvoir les rappeler. Merci, maître Mandolo, professeur Njoli, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que la souveraineté aujourd'hui, ce n'est pas une puissance solaire nobilaire. La souveraineté, c'est le devoir de protéger. Et un pays qui ne sait pas protéger ses ressources, sa population, eh bien, la communauté internationale a un devoir d'ingérence, un devoir humanitaire d'aider le peuple congolais à sortir de travers d'une dictature qui est en train de s'incruster, qui refuse d'organiser volontairement les élections.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.